je crois que j'ai cette formation de géographe dont je ne me défais pas. Et puis, j'ai toujours eu ce sentiment qui est primitif, comme ça, instinctif, du lien de l'homme avec le milieu.
Vous arrivez à destination.
Version perverse, monstrueuse du discours géographique.
Chicago, ville américaine de 3 millions d'habitants située aux portes de l'Ouest et au bord du lac Michigan.
L'esprit géographique, Arthur Guérin-Turc.
Personne ne sait où se trouve Alésia.
Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les scientifiques. Toutes ! Non ! Car un village peuplé d'irréductibles historiens amateurs résiste toujours et encore à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires universitaires des camps retranchés de Paris 8, Lyon 2, Rennes 1 et Bordeaux 3.
La bataille franco-française autour de la localisation d'Alésia est en soi un curieux objet d'analyse. Ce n'est assurément pas, aujourd'hui, un débat pertinent pour un archéologue et je ne connais guère de spécialistes de l'armée romaine à l'université qui veuillent s'y intéresser. Ceci explique probablement le malaise qu'on ressent immanquablement face à cette question. Vous aussi, vous avez appris à l'école qu'en 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix, acculé, dépose les armes devant César. Alésia représente un moment charnière, c'est la fin de la guerre des Gaules et le début de la période gallo-romaine. Les manuels scolaires d'histoire ne vont pas plus loin. À la limite, une reproduction du tableau de Royer au XIXe siècle, intitulé « La reddition de Vercingétorix », mais guère plus. On ne se demande jamais où se situe Alésia. Sans doute quelque part dans le centre de la France, entre Poitiers et Besançon, grosso modo. Pour comprendre l'origine de la querelle, il faut se replacer dans l'atmosphère intellectuelle du XIXe siècle. On est en pleine celtomanie. Les Gaulois, longtemps absents de la mémoire collective, sont désormais reconnus comme les véritables ancêtres populaires des Français, en lieu et place des Francs, réputés fondateurs d'une aristocratie et d'une royauté abattue par la Révolution. Les Gaulois viennent de trouver leur lettre de noblesse avec Amédée Thierry, Camille Julian et Henri Martin. Ces écrivains et historiens affirment notre filiation avec les Gaulois et dessinent le visage éternel du caractère national. Vercingétorix apparaît alors sous les traits d'un héros romantique, patriote résolu, chef visionnaire, prophète de l'unité du pays. L'héroïsation de Vercingétorix et la transformation d'Alésia en haut lieu de la mémoire nationale ont donc largement contribué à figer la querelle de la localisation. Comment donc se fait-il qu'à l'heure de la métamorphose des mythes identitaires français, les enjeux paraissent toujours aussi forts? Les nombreuses sorties de Franck Ferrand, journaliste historien à Europe 1, jettent à chaque fois de l'huile sur le feu. Télévision, chronique, radio, préface, Franck Ferrand est partout pour dévoiler une supercherie. Alésia se situerait non pas en Bourgogne, au mont Auxois, sur la commune d'Alise-Sainte-Reine, mais dans le Jura, à Chaux des Crotenay.
Ce qui est certain, c'est qu'on a trouvé en Bourgogne, à Alise-Sainte-Reine, des vestiges liés à des sièges romains. Ça, c'est incontestable. Est-ce que ce sont des vestiges liés au siège et à la bataille d'Alésia? Ça, c'est une autre affaire. Nos auditeurs fidèles savent ce que je pense de la question. Je l'ai dit souvent à ce micro lorsque j'étais invité. Je l'ai beaucoup écrit, je le dis encore actuellement dans la presse. Il me semble que ce ne serait pas très correct d'utiliser ma propre émission sur Europe 1 comme tribune pour rétablir une vérité qui fait polémique. Nous aurons d'autres occasions, je crois, d'évoquer tout cela.
Les historiens de l'université lui ont répondu dans une tribune parue dans le Figaro en 2014 qu'une telle énergie mériterait un meilleur usage. Je cite.
Sans petit bonsoir, Franck Ferrand se trompe totalement. avec obstination.
C'est franc, direct, ça le mérite d'être clair. Car pour Franck Ferrand, il ne s'agit pas d'une simple querelle d'érudits. Non, selon lui, je cite, « Il s'agit de la plus grande controverse historico-archéologique de ce début de siècle. » Rien que ça. Remarquons déjà qu'en dehors des quelques fans de Franck Ferrand qui ne ratent aucune de ses anecdotes encyclopédiques durant le Tour de France, cette querelle n'émeut aucun historien de l'Antiquité en France, et je n'ose imaginer son impact à l'étranger. L'Atlas du monde grec et romain, édité par l'université de Princeton, qui fait autorité en la matière, situe Alésia là où elle doit être, au mont Auxois. Et personne parmi les archéologues et les spécialistes de l'Antiquité n'a pensé à rectifier cette localisation. « Ce ne sont que des mandarins !» rétorquerait Franck Ferrand. « Une histoire officielle, un complot pour étouffer une voix discordante !» Et c'est bien ça le hic de l'histoire. Les fake news font leur entrée dans le champ scientifique. Le doute s'installe, les malhonnêtes signent et persistent, et là, c'est le drame. Malaise dans la civilisation. Autrefois, l'identité française s'exprimait en termes de filiation et d'hérédité avec nos ancêtres les Gaulois, qui avaient modelé notre sol et façonné pour toujours nos comportements. Mais aujourd'hui, l'identité française dont on nous rabat les oreilles tous les jours, cette fameuse identité s'analyse en termes d'héritage culturel multiple et nécessairement beaucoup plus complexe, façonnée peu à peu et en perpétuelle mutation. La sortie de l'histoire mondiale de la France dirigée par Patrick Boucheron en est l'expression. En réaction à ce mouvement général, subsiste une tendance traditionnaliste forte qui met sous le tapis les événements qui la dérangent. Souvenez-vous de l'album d'Astérix, Le Bouclier Arverne, dans lequel le chef du village, Abraracoursix, est victime d'une crise de foi et doit aller suivre une cure thermale à Aquae Calidae, c'est-à-dire Vichy, mais sans réel succès. Quelle mauvaise idée aussi que de suivre un régime à Vichy. Dans la bande dessinée, tous les Gaulois ne jurent que par Gergovie, et un jour, Astérix a le malheur de prononcer le mot Alésia devant Abraracoursix, qui lui hurle dessus.
Alésia ? Connais pas Alésia. Je ne sais pas où se trouve Alésia. Personne ne sait où se trouve Alésia.
Qu'ils sont susceptibles, ces Gaulois. Quand l'album Le Bouclier Arverne sort en 1967, tout le monde sait où est Alésia. Le site du mont Auxois, à Alise-Sainte-Reine, a été fouillé abondamment au 19e. Les nombreuses découvertes attestent du sérieux de cette thèse. Il y avait une place forte, il y avait un siège, et les objets retrouvés à Alise datent de la fin de la période dite de la Tène, soit l'époque où le siège s'est déroulé. Et les descriptions du site par César dans la guerre des Gaules sont très parlantes. Ce qui a pu apparaître suspect aux yeux de certains, c'est le caractère très officiel et très instrumentalisé des fouilles d'Alésia sous le Second Empire. Les traits du visage de la statue de Vercingétorix qui borde le plateau ne sont d'ailleurs pas sans rappeler fortement Napoléon III, son commanditaire. Une statue qui, par ailleurs, pose de gros problèmes historiques, moustache, épée, collier, tout est à peu près bidon.
Personne ne le dit, mais en tout cas, c'était un argument en faveur de la localisation d'Alésia en Bourgogne.
Il est vrai que Vercingétorix n'a pas cessé d'alimenter l'imaginaire collectif français. Mais comment peut-on encore admirer de nos jours un héros qui a été vaincu ? Selon l'historien André Simon, chez Vercingétorix,
« La force du guerrier ne l'emporte pas sur la grandeur d'âme. »
Ce faisant, il s'est montré plus grand que son vainqueur, comme l'écrit André Simon dans Vercingétorix et l'idéologie française.
La France a connu de grandes défaites. 1814, 1815, 1870. Et malgré les revers, entendait maintenir l'honneur. En établissant une continuité entre la Gaule et la France, on proclamait aussi que la défaite d'autrefois avait été surmontée, et donc que les défaites présentes le seraient aussi. Nous avons connu Alésia. Alésia, catastrophe originelle, archétype de la défaite, n'ouvre pas sur la fin, mais sur une heureuse métamorphose.
Je crois très juste cette analyse d'André Simon, qui explique la charge idéologique, consciente ou non, que revêt encore aujourd'hui le premier héros national français, et qui justifie les passions que suscite encore son mythe et celui d'Alésia. La question archéologique de la localisation du siège d'Alésia ne se poserait pas dans un contexte normal, c'est-à-dire s'il s'agissait d'un autre site, dépourvu d'enjeux identitaires. Mais en devenant un symbole national, Alésia reste un objet passionnel, au lieu de devenir un sujet scientifique ordinaire. Cette querelle franco-française dérisoire a donc de beaux jours devant elle. Les historiens de garde adeptes du roman national continueront toujours et encore de résister à l'envahisseur de la vérité scientifique. Et puis, tant pis, Alésia, Jacques Taest.